Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, le 11e de cette 5e saison pour débuter. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Didier Codorniou.
Bonjour Jean-Claude, bonjour Michel.
Maire de Gruissan depuis pas mal de temps, premier vice-président de la région aujourd'hui, un poste qui vous occupe beaucoup parce que beaucoup de responsabilités. Il est probable d'ailleurs qu'on passe beaucoup de temps sur ce poste si particulièrement. Vous ne vous en offusquerez pas, j'espère, Didier Codorniou. Alors notre sommaire prévoit, Michel, un billet que tu as, un contre-regard, pour être plus précis sur cette émission, un contre-regard que tu intitules « La REM » et alors « JG », ce sont les gilets jaunes, « Des jumeaux paradoxaux ». Alors, faudra que tu nous expliques en quoi ils peuvent être jumeaux, même si cela semble à première vue fort paradoxal. Après un thème que tu intitules « Donner aux citoyens le pouvoir de contrôle de la dépense publique », point d'interrogation. Dans une deuxième partie, un apéro jaune sous les fenêtres d'un député. Bon, on va voir de quoi il s'agit. C'est pas particulièrement d'ailleurs joyeux comme comme thème. Et puis nous terminerons par Céléran, le domaine de Céléran sur la commune de Saldaude. Tu avais déjà évoqué ça dans des billets précédents. Il s'agit de ce que tu appelles un scandale. Enfin, tu expliqueras pourquoi. Une perte d'argent financière au niveau régional. Et puis, évidemment, dans la troisième partie, Didier Codorniou. Tout d'abord, alors, l'AREM, c'est donc La République En Marche et Gilets jaunes. Tu y trouverais au conditionnel des ressemblances, voire des parallèles.
Oui, mes ressemblances, non pas sur le fond des revendications portées par les uns et par les autres,
oui, parce
dans les objectifs.
Quelles revendications ?
Ni dans les objectifs visés. Bon, rappelons quand même que La République En Marche, c'est un mouvement qui s'est créé autour d'une personne, en fait, qui est aujourd'hui président de la République, avec un objectif très précis, la prise du pouvoir à la fois de la présidence, bien sûr, mais de tout le reste, pour mettre en place un programme qui avait été clairement présenté devant les Français.
Oui, alors ce qui n'est pas du tout le cas pour
les
Gilets jaunes.
Le cas des Gilets jaunes, encore que les dernières revendications, les seules qui visiblement font consensus,
qui se cristallisent un peu,
c'est démission Macron, démission de l'Assemblée nationale, Assemblée citoyenne, en fait, bon, etc., etc. J'ironise, bien entendu, sur ce point-là.
Oui, mais alors ça, c'est le dégagisme,
non,
c'est pas la prise de pouvoir.
Je voulais, dans le billet que j'ai écrit, là, qui est en ligne sur mon blog, je voulais mettre en évidence certaines caractéristiques communes, en fait, voisines, communes, disons, entre le mouvement, je dis bien le mouvement La République En Marche, et le mouvement des Gilets jaunes.
Alors sur la forme peut-être.
Sur la forme, bien entendu, sur la forme. Sur la forme, c'est-à-dire sur la manière dont les processus, c'est-à-dire ces mouvements, sont nés, en fait, se sont construits.
Et si je puis dire, se sont mis en marche.
Exactement. Première caractéristique. Tous, En Marche et les Gilets jaunes, ne sont pas partis de revendications exprimées par des partis politiques ou des formes d'organisation classiques comme les syndicats. Aucunement. La République
En
Marche et les Gilets
jaunes
sont nés hors système représentatif actuel.
Oui, mais en s'appuyant sur un nouvel outil de communication.
En s'appuyant et en jouant des effets de masse, de nouvelles technologies, ce que j'appelle moi la révolution scientifique et technique en cours qui produit ce genre d'outils, à savoir les réseaux sociaux principalement et les chaînes d'information en continu. La caractéristique principale que je vois, en fait, qui fait que ces deux mouvements sont paradoxalement assez voisins dans leur forme d'organisation et dans leur mouvement, tient effectivement à ce que je considère comme une révolution scientifique et technique en cours qui est en train de brasser et de rendre pratiquement obsolète toutes les formes de représentation politique et institutionnelle, d'ailleurs, de notre pays.
Oui, enfin, ça, l'avenir dira si ça se pérennise ou pas, cette obsolescence.
Oui, bien sûr, mais c'est mon hypothèse. Je peux me tromper, mais j'ouvre une parenthèse. Je l'ai défini, cette révolution scientifique et technique, mais il n'y a pas que moi qui le dis. De nombreux chercheurs l'ont déjà, en fait, exprimé et surtout exposé par la jonction de deux révolutions. Celle d'Internet et des réseaux sociaux, et deux, de l'intelligence artificielle qui est en train de produire des effets dont on imagine mal les conséquences. Par exemple, qui sait aujourd'hui, et je dis ça pour une raison très précise, que j'ai constaté que les avocats étaient eux aussi faits en grève, contester le je ne sais quoi encore du gouvernement.
Un projet de réforme.
Oui, sauf que l'intelligence artificielle dans ce métier-là va complètement bouleverser, pour ne pas dire éliminer, une part non négligeable de ceux qui aujourd'hui en vivent. Pour une raison simple, c'est que avec l'intelligence artificielle, demain, n'importe quel individu qui n'a aucune connaissance juridique particulière pourra, grâce aux données accumulées et gérées par des applications très concrètes qui verront le jour, non seulement aura accès à toute la jurisprudence, etc., mais en plus aura des modèles, des modèles de l'être, qui lui permettront d'agir quasiment directement, sans intermédiaire ou très peu, pour agir en justice.
Oui, sauf que celui qui n'est pas juriste aura du mal à piger un peu le jargon juridique.
C'est pour ça que je dis, va transformer radicalement ce métier, et par voie de conséquence, certainement en éliminer une part non négligeable qui aujourd'hui l'ont investi.
C'est possible.
De la même manière pour la médecine, aujourd'hui, demain, dès 2019, la téléconsultation permettra à quelqu'un de consulter son médecin à distance par la voie d'Internet, va résoudre à terme un des grands problèmes qui est posé aujourd'hui par la désertification en matière de santé de certains territoires de la République qui sont aujourd'hui qui vont partir leurs médecins, etc.
Demain, machines ne remplaceront pas entièrement
Bien entendu, mais ça va révolutionner et ça va résoudre en partie effectivement le problème de la même manière qu'aujourd'hui, la déclaration en ligne des revenus a eu comme conséquence effet positif de répondre à une disparition des trésoreries dans tous les patelins de notre département. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Alors tout ça pour dire que ce sont des jumeaux paradoxaux qui résultent de cette révolution scientifique et technique dont je viens rapidement de décrire, définir rapidement le contenu et de décrire rapidement les effets sociaux qu'elle induit dans toute une série de professions aujourd'hui, mais qui oblige aussi les partis politiques, me semble-t-il, comme les syndicats, complètement déconnectés de ces mouvements, de réfléchir à leur propre mode d'organisation dans le futur, qui devra prendre en compte ce type de nouvelles technologies. J'avais pour preuve un exemple, là aussi paradoxal, que je vais tirer de l'étranger. Monsieur Trump, le président de la République, le président des États-Unis, il est né politiquement comment ? Contre son propre parti, contre l'ensemble de l'établissement médiatique, classique, américain, et en jouant sur quoi ?
Les réseaux sociaux
Les chaînes en continu. Donc on est au tout début de cette révolution-là, et si je n'ai pas un conseil à donner aux partis politiques ni aux syndicats, mais ne pas prendre en compte ce phénomène-là et en tirer toutes les conséquences à partir de ce qui vient de se passer, à la fois par l'accession de la République en marche, les conditions de son accès au pouvoir au plus haut niveau et de ce qui se passe en matière de contestation sociale aujourd'hui à travers les Gilets jaunes, serait une grave erreur et surtout ne pas comprendre effectivement tout ce qui est en train de bouleverser l'ensemble de nos institutions et de nos pratiques aujourd'hui dans ce pays.
Alors rapidement, parce que cette première partie était longue et méritait un long développement, le second billet, donner aux citoyens le pouvoir de contrôle de la dépense publique, c'était d'ailleurs un conseil que tu donnais entre guillemets aux Gilets jaunes. Vous protestez contre un ras-le-bol fiscal national.
C'est ça.
N'oubliez pas le ras-le-bol fiscal local. C'était ton message.
C'est ça qui est aussi étonnant, c'est que nos Gilets jaunes, mais ça on peut le comprendre, c'est un mouvement quand même relativement jeune, à la fois dans ses formes d'organisation, dans sa démarche, dans ses revendications, etc. C'est qu'il laisse de côté tout un pan de l'administration publique qui lui aussi prélève de l'impôt et donc prélève, si je puis dire, du pouvoir d'achat auprès de ces comme ça. Ce sont effectivement les collectivités locales.
Tu avais donné déjà quelques exemples.
Oui, bien sûr. Et Dieu sait si en la matière, il y a, de mon point de vue, mais Didier Coudon va certainement le contester plus tard, il y a des marges de productivité effectivement à obtenir. J'en veux pour preuve quelques exemples. Tiens, est-il normal qu'une région comme la nôtre, Occitanie, une grande région, dont la vocation est de gérer des équipements structurants, et de coordonner des politiques départementales d'agglo pour faire en sorte qu'effectivement il y ait une harmonisation, une coordination des politiques publiques beaucoup mieux affirmées. Est-il normal qu'une région comme celle-là, comme toutes les autres d'ailleurs, distribue des subventions de 200, 300 euros à des clubs sportifs. J'en connais un, en fait, tout près d'ici, en fait, en l'espèce, un club de tennis, de 200-300 euros pour acheter des balles jaunes. Est-ce que ça, c'est un effet structurant produit dans l'environnement économique local?
C'est une question locale. Voilà, c'est une bonne question. Et on reviendra dessus tout à l'heure, bien entendu, en donnant la parole à Didier Codorniou, avant de marquer sur ce sujet une première pause.